Eh bien, Père éternel, nous voulons te rendre grâce pour ta sainte parole. Et Seigneur, nous nous penchons sur ta parole ce matin afin de l'étudier, afin de laisser, Seigneur, tes Écritures nous parler. Père, on te prie de venir nous bénir ce matin. Viens, Seigneur, nous aider à approfondir notre connaissance, mais que cette connaissance nous conduisent à faire le choix que tu avais placé devant le peuple d'Israël, devant cette nouvelle génération qui devait à nouveau faire ce choix de marcher dans tes voies. Merci pour Josué qui est un modèle vraiment d'homme de Dieu, Seigneur. Viens nous inspirer par cet homme et nous inspirer à être nous-mêmes des leaders là où on est placé, là où on doit, Seigneur, être un exemple et prendre des décisions et consacrer notre cœur et consacrer notre famille. Viens nous bénir ensemble ce matin dans ta parole. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen. Alors, vous avez les notes sur Josué. Nous sommes dans le cours de survol de l'Ancien, de survol de la Bible, en fait, section de l'Ancien Testament, le livre de Josué, la leçon 6. La semaine dernière, on a terminé une première partie de la Bible. Quelqu'un qui peut me dire comment on appelle communément les 5 premiers livres de la Bible? Le Pentateuque, merci. La Torah, oui, c'est ça, aussi. On va y aller en français pour ce matin, le Pentateuque. Maintenant, on arrive dans une toute nouvelle section des Écritures, d'accord? Alors, le Pentateuque sert vraiment de fondement à beaucoup de choses pour le reste des Écritures. Même si on avance dans l'histoire, même si lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, on dit, OK, là, à quelque part, on arrive vraiment dans la révélation parce qu'on est avec la personne de Christ. Alors, c'est plus merveilleux, si j'ose dire, c'est plus complet. On a vraiment Dieu sur terre qui est là. Malgré cela, tout le Nouveau Testament, tout le reste des Écritures serait vraiment difficile, pour ne pas dire impossible, à comprendre sans le Pentateuque. Le Pentateuque sert de fondement. On a vu ensemble à travers la Genèse, le commencement de la Genèse, fondement à notre compréhension même du fait qu'il y a un Dieu créateur, il a créé des êtres qui étaient là pour le glorifier, pour l'honorer, lui obéir. Ces êtres-là se sont rebellés, sont tombés sous la malédiction de Dieu. Et donc, on a tout ce fondement-là qui vient expliquer jusqu'à l'Apocalypse. Enlevez ça, vous ne comprenez pas l'Apocalypse, d'accord? Mais ensuite de ça, il y a toute cette alliance dans laquelle un peuple va entrer avec Dieu. Le peuple d'Israël va entrer dans une alliance avec Dieu. Et encore une fois, cette compréhension-là de cette notion d'alliance est fondamentale à comprendre la vie chrétienne, à comprendre la marche chrétienne, à comprendre même le plan de Dieu pour les êtres humains. Dieu invite les hommes à entrer dans une alliance avec lui. Au milieu d'une création qui est sous la malédiction, qui n'est plus dans cette alliance avec Dieu, si je peux dire, Dieu invite les hommes à entrer dans une alliance avec lui. Dans l'Ancien Testament, à travers Israël, dans le Nouveau Testament, à travers la personne de Christ. D'accord? Et donc, toutes les nations sont invitées à entrer dans cette alliance. Donc, c'est fondateur pour toutes les Écritures, le Pentateuque. Maintenant, on arrive dans une nouvelle section qu'on appelle les livres. Quelqu'un qui le sait? Pas les livres de sagesse. Les livres historiques. D'accord? Les livres historiques qui vont aller jusqu'à quel livre? Si on veut juste les situer rapidement. On commence avec Josué, puis on va jusqu'à quoi si on parle des livres historiques? Pardon? Non, avant ça, on va voir les livres de sagesse, mais plus précisément le livre d'Esther. D'accord? Alors, de Josué à Esther, on parle des livres historiques. Ensuite de ça, on va rentrer dans la section des livres de sagesse et puis on va aller dans la section des livres prophétiques. Maintenant, les Juifs le découpaient plus simplement un peu, mais généralement, c'est comme ça qu'on va parler de ces sections de livres. Donc, on a 12 livres dans la section des livres historiques. D'accord? Les livres historiques sont intéressants parce qu'ils nous montrent comment le peuple de Dieu a vécu sous l'alliance. Dans la Genèse, Dieu crée les hommes. Il va les inviter à travers Exode. Il va inviter un peuple à entrer dans une alliance avec lui. Lorsqu'on arrive dans les livres historiques, l'alliance a été bien stipulée. Les termes de l'alliance sont très, très clairs. Lorsqu'on arrive dans les livres historiques, on va voir comment Israël vit sous cette alliance-là, dans cette alliance-là. Et bon, comme vous le savez probablement, l'histoire n'est pas toujours jolie. D'accord? Mais ce sont des livres importants, justement, parce qu'ils préfigurent aussi, à travers toute l'histoire d'Israël, ça préfigure aussi ce que Dieu nous appelle, nous, à vivre. D'accord? À travers les bons coups et les mauvais coups d'Israël, à un certain moment donné, quand tu lis tous ces textes-là, puis tu arrives à travers les livres prophétiques, tu réalises que Dieu est en train de de surligner avec un marqueur jaune l'incapacité, l'infidélité d'Israël à marcher dans l'Alliance et la grâce de Dieu qui est constante. Et puis là, tranquillement, va commencer à apparaître la promesse d'une nouvelle alliance qui va être excellente en comparaison avec celle-là. Ça, c'est lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament. La période qu'on couvre à travers les livres historiques, on parle d'environ 1000 ans. D'accord? On parle du 15e siècle avant Jésus-Christ au 5e siècle avant Jésus-Christ. D'accord? Environ 1000 ans de la période qui est couverte entre Josué et Esther. Alors, juste pour vous aider à vous réchauffer un petit peu, si je parle de, si on vous dit le livre de Josué, qu'est-ce qui vous frappe? J'aimerais entendre deux, trois personnes, pas plus, très brièvement. Qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qui vous frappe dans Josué? Conquête. D'accord? Ça, ce serait une manière de le résumer. Alors, soit une manière de le résumer ou quelque chose qui vous frappe personnellement, qui vous a toujours saisi dans ce livre-là. Oui? De Jéricho? Oui. OK, tout ce qui est autour de la conquête de Jéricho. Oui, toute une technique militaire assez particulière, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre? Une dernière personne? Oui, André. La persévérance? OK, la persévérance de Josué. Oui, définitivement. Oui, oui. Josué était vraiment un beau modèle de leadership. Oui. Excellent, excellent. Le livre de Josué est une inspiration pour nous par la personne de Josué, mais par d'autres passages aussi, puis on va en souligner quelques-uns ce matin. Un des éléments à voir tout de suite lorsqu'on arrive dans le livre de Josué, c'est que Dieu est en train de faire la démonstration qu'il est un Dieu fidèle qui honore ses promesses. Une des manières de voir le livre de Josué, par exemple, ce serait comme Stéphane l'a dit, par le mot « conquête ». D'accord? Mais derrière ça, au-delà des conquêtes, il y a ce Dieu souverain qui vient accomplir ses promesses. D'accord? Alors, une autre manière de regarder, de penser au livre de Josué, c'est la démonstration de la fidélité de Dieu pour accomplir ses promesses envers Israël. D'accord? Donc, Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte. Dieu les a conduits au désert. Ça a été une période extrêmement difficile en raison essentiellement de la rébellion d'Israël. Maintenant, est-ce que Dieu va tenir parole 40 ans plus tard? Est-ce que Dieu va aller et va tenir parole? Et on rentre dans le livre de Josué et on voit la fidélité de Dieu qui va accompagner son peuple, qui ne l'a pas simplement sorti d'Israël, mais qui l'a conduit dans ce temps de repos. D'accord? Alors, le mot « promesse » aussi, ou « fidélité à ses promesses », c'est une bonne manière de penser au livre de Josué. Le thème, si vous regardez dans vos notes, à la page 1, les pages sont numérotées dans le bas à droite. Si vous regardez le thème, « Dieu accomplit sa promesse envers Israël et démontre sa puissance en établissant son peuple dans la terre promise afin qu'il y trouve le repos dans une relation intime avec lui. » C'est un long thème, disons. Là. Dieu accomplit sa promesse afin qu'Israël entre dans le repos promis. D'accord? On pourrait le résumer comme ça. L'auteur, on ne peut pas avoir vraiment de certitude à cet égard-là. On présume que c'est probablement Josué à cause d'un indice à l'intérieur du texte, mais de là à dire qu'on peut être catégorique sur ça, ce serait vraiment difficile. Au niveau de la période de rédaction, bien, comme je vous ai dit, la période de Josué commence à environ en 1400 quelques avant Jésus-Christ. Et si c'est Josué qui l'a écrit, ou tout le moins avec le récit qu'on a, ça se termine avec la fin de la vie de Josué. Et donc, probablement que la période, ce serait vers les dernières années de la vie de Josué. On est dans des hypothèses ici. Au niveau de la structure du livre, bien c'est ça. Si on parle de conquête, si vous voulez essayer de placer la structure du livre simplement dans votre esprit, vous coupez le livre en deux. Au début, vous avez une espèce de petit prologue où Josué va demander à la nouvelle génération de réitérer son engagement envers l'Éternel. Puis ensuite de ça, on rentre dans la conquête pour à peu près la moitié du livre. D'accord? L'autre moitié du livre, c'est le partage du territoire. Et les derniers chapitres vont servir à un discours de clôture, si on peut dire, avec Josué, où Josué va préparer le peuple à continuer sans lui et à marcher avec Dieu. Donc, le livre se coupe vraiment en deux. Première partie, ce sont les conquêtes. Deuxième partie, c'est le partage du territoire, avec un prologue puis avec une conclusion. Au début, il y a l'établissement de Josué comme leader de la part de Dieu. Moïse l'avait déjà fait, mais là, ici, on a comme le prologue. Alors, Josué est établi comme leader par Dieu. Josué va aller vers le peuple pour dire, est-ce que vous êtes avec nous là-dedans? Est-ce que vous êtes avec Dieu? Est-ce que vous engagez? Ils vont renouveler l'alliance, leur engagement vers l'alliance, conquête, partage, à la fin, un discours pour leur dire, bien maintenant, c'est à vous de continuer de persévérer et de pas retourner dans les péchés de vos pères. On va revenir sur ça. Tournez avec moi dans Josué 1, s'il vous plaît, les versets 7 à 9. Il y a plusieurs passages très inspirants dans le livre de Josué. Celui-là, c'en est un des plus beaux. On a quelques indices que Dieu a voulu confirmer que Josué était un digne successeur de Moïse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît quelques-uns de ces indices-là? Comment est-ce que Dieu a voulu confirmer que Josué était vraiment à la hauteur de la tâche et qu'il pouvait prendre la relève? Alors évidemment, il y a premièrement ce passage-là qu'on va lire ensemble dans quelques instants, mais il y a d'autres indices encore où Dieu produit dans la vie de Josué des parallèles avec la vie de Moïse lorsqu'il est mis en place comme chef. Si vous allez au chapitre 5, versets 13 à 15, Josué 5, 13 à 15, « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non. » mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba, le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. C'est un peu la rencontre de Moïse avec l'Éternel lorsqu'il vient devant le buisson ardent, d'accord? Je veux juste par cela vous faire remarquer qu'il y a des parallèles dans les Écritures comme ça où, quand tu es attentif, tu te rends compte que Dieu est en train d'attester que Josué est l'homme qui va prendre la relève. Mais plus tard, lorsqu'on va arriver avec Jésus, Dieu va faire la même chose avec Jésus pour montrer que Jésus est bel et bien le nouveau Moïse. Par exemple, les béatitudes, il va les donner sur la montagne, d'accord? Qui est une figuration de ce moment où Moïse monte sur la montagne pour recevoir les lois de l'Éternel et puis les donner. Alors, dans les Écritures, il y a des parallèles comme ça qu'on voit apparaître et c'est intéressant de les voir parce qu'on voit la main de Dieu qui est là pour attester ses serviteurs, pour confirmer. On est dans le livre des Actes, dans la série de prédication dimanche matin, on est dans le livre des Actes et, par exemple, Luc nous rapporte des parallèles entre ce que Dieu fait avec Paul et ce que Dieu a fait avec les apôtres avant, pour démontrer que Paul est véritablement un apôtre et qu'il est l'apôtre des païens. Et donc, il y a des miracles qui vont être faits, il y a des interventions qui vont être faites qui sont très semblables à celles que Pierre fait. Et lorsqu'on lit le passage attentivement, en ayant ça à l'esprit, on voit ces parallèles-là apparaître, d'accord? Et Dieu est en train d'attester ses serviteurs lorsqu'il est en train de faire ça. Donc, il y a quelques parallèles entre Josué et Moïse pour dire, maintenant, suivez Josué. C'est lui qui prend la relève. Ce n'est pas l'autre Moïse. Celui-là va venir plus tard parce que Josué n'est pas la moitié de ce que Moïse a été en termes de miracles et tout ça, et même d'intimité avec Dieu. Mais c'est Christ qui va venir plus tard qui va être l'autre Moïse. Donc, ce passage, Josué 1, 7 à 9. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je point donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Est-ce que vous voyez le parallèle avec l'appel de Moïse? Moïse qui était craintif, qui avait besoin d'être rassuré, qui avait besoin d'avoir même des preuves que Dieu allait être avec lui. D'accord? Alors Dieu dit ici à Josué, « Comme j'ai été avec Moïse, je vais être avec toi maintenant. » Et c'est toi qui vas conduire le peuple. C'est vraiment un beau passage. Sans regarder le paragraphe qui suit, qu'est-ce qu'on apprend sur le leadership, par exemple, à travers ce passage-là? Un leader selon Dieu, et chacun d'entre nous, même homme-femme, on a nos champs où on doit exercer ce leadership-là. Oui, Gérard?
Mm-hmm. Mais les leaders, eux autres, par contre, ont marché avec Dieu. Et ils étaient renforcés de Dieu. Et à cause d'eux autres, ma foi grandit. Mm-hmm. Et je sais que le peuple peut marcher dans la foi maintenant en regardant aux leaders que Dieu a déposé ses ordonnances en eux.
OK, merci. Qu'est-ce qu'on apprend sur les leaders? Dans mon esprit, je n'ai pas vraiment en tête particulièrement les pasteurs, d'accord? Je pense vraiment que ce texte-là s'applique à tout le monde ici. Chacun dans notre champ de leadership. D'accord? Qu'est-ce qu'on apprend sur les leaders dans ce passage-là? Selon Dieu, évidemment. Faire confiance à l'Éternel, se confier en lui. Pardon? Il n'y avait pas toutes sortes de réserves qui l'empêchaient d'obéir à Dieu dans son esprit. OK? Évidemment, se confier dans la parole de Dieu, prendre la parole de Dieu comme appui dans nos vies. Fait que je ne sais pas quelle situation vous êtes en train de vivre qui peut être extrêmement difficile. Et peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas actuellement. Mais quand on traverse des périodes difficiles, lorsqu'on a un dilemme dans notre cœur quant à savoir quelle direction on doit prendre, qu'est-ce qu'on doit faire, je vais premièrement chercher dans les préceptes de la parole de Dieu. Au-delà même de commencer par dire « je vais demander à Dieu une direction » dans le sens, tu veux-tu que j'achète cette maison-là ou cette maison-là? Bien avant ça, la majorité des dilemmes que nous vivons se règlent à la lumière des préceptes de la parole de Dieu, qui sont des préceptes simples, clairs, universels. J'ai un conflit avec quelqu'un, je vis une situation, qu'est-ce que les Écritures m'enseignent? Et j'ai un choix à faire. Si je décide de chercher la face de Dieu dans sa parole pour dire, Seigneur, c'est quoi tes préceptes ici? C'est quoi qui s'applique dans cette circonstance? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Par le fait même, je suis en train de m'appuyer sur l'Éternel plutôt que de m'appuyer sur mes propres forces. Mais lorsque je décide de me distancer de la parole de Dieu pour pouvoir faire les choses comme je l'entends, je décide de ne pas marcher avec l'Éternel. D'accord? Et par le fait même, je suis en train de prendre une distance par rapport à Dieu. Je suis en train de m'éloigner de cet appui, de cette grâce que Dieu veut mettre dans ma vie pour me bénir à travers cette situation-là. Et donc, l'Éternel fait simplement rappeler à Josué, toute la loi a été donnée, elle a été prescrite, tu la connais, tu connais Dieu à travers ce livre, à travers le Pentateuque. Pour lui, il y a seulement les 5 premiers livres de la Bible. Et il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est la même exhortation que Paul a donnée à Timothée dans les épîtres pastorales. C'est exactement la même chose. Paul a dit à Timothée, médite, étudie, néglige pas ton enseignement, enseigne conformément à tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et donc, c'est la directive pour chacun d'entre nous. C'est ce qui est donné dans le Pentateuque à tous les pères de famille. D'accord? Les rois devaient faire leur propre copie de la loi pour pouvoir méditer la loi. Lorsqu'on arrive à la fin de ce prologue, de l'introduction, si vous allez avec moi au chapitre 4, je n'ai pas pris ma référence exactement en note, là. Je cherche le moment où il célèbre la Pâque à nouveau puis il procède à la circoncision. Chapitre 5, merci. Oui, OK. Chapitre 5, verset 2 et suivant. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. » Alors, une des choses qu'on a tendance à oublier, c'est que pendant cette période des 40 ans, Israël n'a pas été entièrement fidèle envers Dieu. Israël a, entre autres, probablement gardé un certain nombre de divinités au milieu d'eux, des idoles, parce qu'à la fin du livre de Josué, Josué va revenir avec cette exhortation, et cette double exhortation, il leur dit « Renoncez aux idoles de vos pères et à ceux qu'ils avaient en Égypte. » Et donc, ils sont partis d'Égypte avec un certain nombre d'idoles. Et il y a des moments où Dieu a fait le ménage, littéralement, même violemment par moments. D'accord? Mais cela n'exclut pas le fait qu'ils gardaient certaines pratiques et que certains d'entre eux faisaient ça en cachette puis gardaient ces pratiques-là. Par exemple, tous les premiers-nés n'avaient pas été circoncis comme ils auraient dû l'être. Maintenant, Josué prend ce moment-là pour dire, OK, maintenant vous êtes la nouvelle génération, il vous revient à vous de vous engager à nouveau dans cette alliance-là. Alors, quand on pense au peuple d'Israël dans le désert, c'est un peuple qui n'était pas entièrement fidèle. Là. Non seulement par les murmures et toutes ces choses-là, mais simplement par l'obéissance de base à l'alliance. D'accord? Et donc, une fois qu'ils sont circoncis, ils vont célébrer la Pâque à nouveau, qui va être une première Pâque pour se rappeler en vertu de quoi ils se préparent à entrer dans la terre promise. C'est en vertu de ce que Dieu a fait, du rachat que Dieu a opéré lorsqu'ils étaient en Égypte. Et à quelque part, il y a une instruction pour nous aussi. Parce que chacune des générations qui nous suivent doit faire, eux, ce choix-là. C'est cette discussion-là que je dois avoir à plusieurs reprises avec mes enfants, sans venir, puis les tanner avec ça. Il y a des moments que Dieu permet. Et là, pour eux, c'était ce moment-là parce qu'ils se préparent à rentrer dans la terre promise. Mais il y a des moments que Dieu permet où je dois aller vers mes enfants puis dire, vous devez choisir maintenant. Vous devez choisir si vous voulez marcher avec l'Éternel. Et ça veut dire que vous allez vous consacrer corps et âme à l'Éternel. Vous comprenez que vous entrez dans cette alliance-là uniquement par la grâce de Christ, qu'on a ici avec la Pâque, qui est une préfiguration du sacrifice de Christ. Et donc, on doit faire ça. On doit le faire même avec des frères et sœurs qui s'éloignent, ça ne va pas. Et je peux retourner vers ce passage-là et dire, où est-ce qu'il est ton cœur? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à renouveler tes vœux avec l'Éternel pour marcher avec Dieu? Et regarde en arrière puis regarde c'est quoi les idoles qui sont là dans ta vie, c'est quoi les pratiques, les péchés qui sont là dans ta vie, qui viennent du monde environnant des nations. D'accord? Pour eux, c'était ça. Et donc, c'est un moment où Josué, avant d'entrer dans la conquête, va leur dire, OK, on se reconsacre à l'Éternel. On met tout à neuf, tout à blanc, on vide les comptes, on clean tout ça, puis on se prépare à rentrer dans la conquête de cette terre. Quel était le but de la conquête? Ça, on va regarder vos notes, ceux qui les ont pas lues peut-être. C'est quoi le but de la conquête? Il y a différents buts, là. Pardon? Il est double? Ça serait quoi? Il y a un jugement sur Canaan, oui. Oui, c'est vrai. C'est juste. D'autres choses, ça serait quoi? Comment vous résumeriez le but de la conquête? Je ne pense pas qu'on peut le résumer juste en un mot, mais je cherche quelque chose. Puis je veux voir ce que vous avez en tête. C'est quoi le but de la conquête? Montrer la supériorité de l'Éternel, ça tu veux dire? Oui, c'est clair qu'Israël devait, en s'installant, devenir un témoignage pour les nations. Ça, c'est très clair. Oui, alors c'est clair que Dieu va montrer la supériorité de l'Éternel, du seul vrai Dieu, sur tous les dieux inventés des hommes. L'élément que je voulais faire ressortir aussi, c'est cette idée que Dieu les conduit là. Ah, vas-y Francis, je t'avais pas vu. La foi est accompagnée des œuvres, c'est-à-dire qu'il faut passer à l'action si on dit qu'on croit. OK. Oui, il faut qu'ils obéissent. Il faut qu'ils obéissent à l'Éternel, ce que la première génération n'avait pas fait lorsque les espions sont allés explorer, d'accord? Ils prétendaient, mais tout de suite, ils ont eu peur, puis ils se sont retirés. L'élément que je voulais faire ressortir, c'est cette idée de repos, d'accord? Lorsque Dieu conduit Israël, là, il les a sortis d'Égypte, une situation terrible. Il les a conduits dans le désert, et dans le désert, ce n'était pas leur repos. D'accord? Ils devaient être satisfaits en Dieu, ne pas murmurer contre l'Éternel. Mais la promesse de Dieu, ce n'était pas de les conduire au désert. c'est de les conduire dans un pays d'abondance, dans un endroit où ils trouveraient le repos, où ils seraient en sécurité, où ils pourraient librement servir Dieu, glorifier Dieu, vivre les préceptes de Dieu, être un témoignage pour les nations. Et donc, les libérer de cet esclavage, pas pour les conduire au désert, mais les conduire dans ce repos-là. Regardez avec moi Josué 1, versets 13 à 15. « Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. » C'était une promesse, c'était à accomplir. « Vos femmes et vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse, de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain vers le soleil levant. » Le but de la conquête était de conduire Israël dans un repos où ils allaient être en communion avec Dieu, glorifier Dieu. Donc, la gloire de Dieu, c'est vrai, démontrer la supériorité, le fait qu'il y a un seul Dieu vivant et que les idoles ne sont que des outils, des instruments du diable. Définitivement, ce sont tous des éléments, mais il y a cet aspect-là de conduire dans une terre promise, dans une terre de repos. Pourquoi est-ce que je prends le temps de le souligner? C'est parce que c'est un des thèmes importants qu'on trouve à travers toutes les Écritures. Cette image où Israël va rentrer dans une terre de repos, c'est une préfiguration de quelque chose d'autre qui va venir. D'accord? Nous sommes invités à entrer dans un repos céleste, premièrement. D'accord? Tout simplement dans la personne de Christ. Alexandre a bien fait de citer ici Matthieu 11, 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous avez comme une synthèse de l'Alliance ici, d'accord? Vous avez comme un résumé de l'Alliance. Jésus est en train de dire, il ne dit pas juste « venez à moi, puis je vais vous donner du repos ». Il dit « venez à moi, prenez mes instructions, observez mes instructions, vous allez trouver du repos, parce que mes instructions et moi-même, je vais vous bénir à travers ça. Ce que je veux vous donner, ce ne sont pas des choses dures pour votre âme. Ce sont des choses bonnes pour votre âme. » Vous avez comme, juste dans ces trois versets-là, on a cette image-là de l'Alliance. L'Alliance, c'était ça. Dieu s'en va chercher Israël, les invite à rentrer dans une alliance qui va les conduire dans un repos parce qu'ils vont vivre comme Dieu le désire. D'accord? Oui, André. C'est eux qui vont, oui, on pourrait dire ça, là, ils vont être éprouvés une deuxième fois. C'est eux qui ne vont pas être fidèles à l'Éternel. Et donc, Dieu va honorer son alliance en les déportant. D'accord? C'est ça la vérité, c'est que Dieu va honorer les termes de l'alliance en les châtiant. Et donc, on pourrait dire ça, oui, c'est eux qui se privent de ce repos-là. D'accord? Maintenant, cette image d'entrée dans la terre promise, c'est une préfiguration du repos auquel nous sommes appelés en Christ et au repos que Dieu nous promet pour l'éternité aussi avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre. D'accord? Parce que nous attendons encore après un repos ultime. Donc, on est déjà dans un repos puisqu'on s'est approché de la montagne sainte, on a touché Christ, on a saisi Christ. D'accord? On est déjà dans ce repos-là et on doit apprendre à vivre là. Maintenant, ça veut dire qu'Israël, lorsqu'Israël entrait dans la terre promise, ils entrent là, font la conquête, ils ont la loi, tout ça, et ils vont en venir à voir la loi de Dieu comme quelque chose qui nuit à leur repos, à leur bonheur, puisqu'ils vont décider de suivre leur propre voie. Ils vont s'entêter à ne pas marcher selon la loi de Dieu. Dans un sens, nous faisons la même chose lorsque nous disons: « Oui, Seigneur, je sais que je pourrais prendre du temps dans ta parole pour mettre mon cœur au diapason avec ton cœur puis que tu viennes parler à mon cœur, mais ce n'est pas ça qui me repose. Ce qui me repose, c'est de m'ouvrir une petite bière, d'écouter un petit film. C'est là que je trouve mon repos. Comprenez? Et je décide d'aller selon mon cœur au lieu d'aller trouver mon repos auprès de l'Éternel. la loi de l'Éternel, cette idée que je vais entrer dans cette vie. Pour eux, c'était la vie selon la loi de Dieu. Pour nous, c'est la vie chrétienne. Cette vie-là a une promesse de repos. Même à travers les guerres, à travers les batailles, à travers les épreuves, il y a une promesse de repos qui est là déjà pour maintenant. C'est à ça que Christ nous a invités. Je dois apprendre à aller me reposer en Christ. Sans lui, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Et mon repos se trouve tout près de Christ, juste là, à laisser son esprit faire son œuvre dans mon cœur. Maintenant, ça préfigure aussi, comme je l'ai dit, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où vraiment on va entrer dans un repos définitif, parce qu'il n'y aura plus ce combat avec notre nature charnelle, notre nature pécheresse, je m'excuse. On a une citation d'un beau cantique, « Quel repos céleste » qui parle du repos actuel et du repos à venir. Alors, la conquête de la terre. Dieu donne la terre promise. Josué 6, versets 1 à 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. » Ça a été quoi le facteur déterminant dans les victoires, toutes les victoires des conquêtes? Ça a été Dieu. D'accord? Et même si pour nous, c'est l'histoire d'Israël, en réalité, cette histoire-là, c'est l'histoire de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu décide de prendre un moyen, je veux dire, militairement, totalement farfelu, là? D'accord? Il pouvait être une risée au départ de commencer à tourner autour, tout ça. Pourquoi est-ce que Dieu décide de le faire? Parce que Dieu veut faire une démonstration. Il veut faire la démonstration que c'est l'Éternel qui donne la ville. C'est l'Éternel qui donne la victoire. Et donc, à travers tout le livre de Josué, il y a ce message-là qui revient constamment. C'est vous qui allez aller au front et c'est moi qui vais vous donner la victoire parce que je vais vous précéder dans chacune des batailles, dans chacune des conquêtes à faire. On retrouve ce thème-là dans le Nouveau Testament. Par exemple, lorsque Paul dit « Il n'y a aucune épreuve qui ne vous a été donnée qui soit au-delà de vos forces ». Au contraire, Dieu les donne pour vous éprouver. Pierre revient avec ce thème-là aussi. Pierre permet les épreuves afin que votre foi soit sanctifiée. D'accord? On trouve ce thème qui revient, que c'est Dieu qui nous conduit là-dedans. Dieu le fait souverainement pour se glorifier afin qu'on puisse grandir dans ça. Pourquoi est-ce que Josué allait-il gagner contre Jéricho? Ou comment allait-il gagner? C'est parce que Dieu allait livrer ses ennemis entre ses mains. Et qu'est-ce que Josué fait? Puis tout à l'heure, je ne me souviens plus qui l'a mentionné, mais Josué est un homme remarquable parce qu'il obéit à l'Éternel. Dans les moments les plus farfelus, il obéit à l'Éternel. Et il y a des moments qui sont placés devant nous où les conseils des hommes, les conseils des gens, les conseils de nos amis non chrétiens, mais parfois chrétiens aussi, vont à l'encontre de ce que les Écritures disent. Puis les gens se disent, « Oui, mais regarde, il y a quand même un bout à tout. » Il faut que tu règles ça par toi-même, mon homme. Mais si c'est clair dans les Écritures que je n'ai pas à le faire, je n'ai pas à faire ça. Puis quand vous lisez le Sermon sur la montagne, vous lisez les standards que Jésus donne, ces standards sont très élevés. Puis des fois, tu regardes ces affaires-là, comment tu te comportes avec tes ennemis. Lorsque Paul, regardez tout le traitement que Paul donne à un conflit. Vous avez un conflit qui engendre des pertes financières. Qu'est-ce que Paul dit de faire? Ben, il dit, tu devrais mettre ta gloire à laisser aller. Pardon? Non, je veux justice. Bon, OK, tu veux justice. Prends un médiateur chrétien, puis laisse-le trancher. Il va vous écouter tous les deux. Non, mais tu ne comprends pas. Je sais que si je prends la loi, puis les juges, puis les avocats, je vais arriver au bout de mon affaire, puis je vais gagner. Mais c'est quoi que Paul dit? Il dit, non, tu ne vas pas aller plaider devant les païens. Tu vas régler ça devant les frères. Tu vas prendre un frère sage, puis tu vas te soumettre à ça. Mais je vous dis, il y a des moments où tu arrives là, puis tu te dis, mais avec ma tête, je ne ferais pas ça. Alors, qui est-ce que tu sers? Est-ce que tu sers l'Éternel? Josué était un homme qui obéissait à l'Éternel et Dieu l'a béni. D'accord? Et c'est remarquable à quel point il est fidèle et il va obéir à l'Éternel. Évidemment, ce n'est pas une manière de conquérir une ville, c'est même complètement farfelu. Mais on sert un Dieu qui veut manifester sa gloire à travers des vases d'argile. Et donc, souvent, il va utiliser des moyens farfelus pour démontrer et manifester sa gloire. Josué 11, 23, au milieu de la page 4. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après les tribus, puis le pays fut en repos et sans guerre. Et donc, on a cette idée que Dieu était entièrement fidèle à ses promesses. Il a accompli tout ce qu'il avait promis à Moïse de faire, tout ce qu'il avait promis à Josué de faire. On va aller vers la fin du livre, d'accord? Josué 21. Évidemment, l'histoire d'Israël à travers le livre de Josué, ce n'est pas juste une histoire d'obéissance. Il y a Achan. Il y a beaucoup de péchés par omission aussi, des choses que Dieu demande de faire qu'ils ne vont pas faire, qui vont avoir des implications. Et ça va suivre. On va rentrer dans le livre des juges et on va voir qu'Israël va pécher énormément par omission. D'accord? La différence entre les deux, c'est un péché, c'est je fais quelque chose qui contrevient à la loi de Dieu ou j'omets de faire quelque chose qui me permettrait d'obéir à la loi de Dieu. D'accord? Et Israël va pécher beaucoup par omission. Ce qui va les amener après ça à traiter des alliances avec des peuples étrangers où ils vont pécher par commission, eux-mêmes vont aller à l'encontre de la loi de Dieu. Lorsqu'on arrive à la fin du livre de Josué, je ne vous lis pas tous les partages, évidemment, là, on s'entend. Peut-être juste avant, est-ce que vous voyez d'autres parallèles entre le livre de Josué et le Nouveau Testament? Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à souligner? Oui, Gérard. En tes pensées? Oui, oui, c'est vrai. Puis j'ajouterais le parallèle que je ferais, c'est avec Jésus qui dit que ses paroles, si vous gardez mes paroles. Donc, on a quand même, on demeure avec cette pratique où je vais vers la parole de Dieu pour pouvoir la garder dans mon cœur puis qu'elle soit là. Mais maintenant, j'ai l'Esprit Saint qui est là et dans une certaine mesure, je n'ai pas besoin d'un enseignant puisque j'ai l'Esprit puis je suis là avec la parole. D'accord? Oui. Oui, puis je dirais que c'est tout à l'heure, c'est ça que je voulais dire lorsque je parlais du repos qu'on a déjà en Christ. D'accord? J'entre déjà dans ce repos-là. Quand vous voyez, on est dans le livre des Actes, puis les disciples que vous voyez là, bien sûr, il y en a qui pêchent puis qui sont repris, tout ça. Mais en général, ce qu'on voit avec ces disciples-là, c'est des gens qui vivent dans la foi au milieu de la persécution et qui sont dans le repos. Quand vous allez regarder l'Église de Jérusalem, ils sont à travers les persécutions, ils sont dans le repos. Quand vous regardez Paul, il va de ville en ville, il est persécuté, il est maltraité, mais il est heureux dans son cœur. Rappelez-vous les paroles concernant les apôtres qui se sont fait battre au début. Ils étaient joyeux, ils étaient fiers dans leur cœur d'avoir été maltraités au nom de Jésus-Christ. Ces gens-là sont dans leur repos. D'accord? Et ce repos-là est disponible pour nous maintenant. Ce n'est pas parce qu'on est en Occident qu'on est riche, qu'on est confortable et qu'on peut penser à nos vacances en été que le repos est plus disponible. Je comprends que ça peut devenir plein de distractions, mais c'est vrai que l'Église occidentale ne sait pas c'est quoi souffrir pour le nom de Christ et vivre le repos à travers la souffrance. Fait que ça nous amène à être beaucoup plus, à avoir une attitude de consommateur. S'il y a une Église à travers la terre qui ne sait pas vraiment c'est quoi la souffrance, c'est l'Église occidentale parce que c'est comme on est libre de vivre notre foi relativement libre Et donc, on va se trouver des mots ailleurs. Mais ce repos-là est définitivement disponible. Josué 21, verset 43-45. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout autour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. C'est ce Dieu-là que nous servons qui est fidèle à ses promesses. Aucune des paroles que Dieu prononce ne reste sans effet, elles s'accomplissent toutes. Maintenant, allons vers la toute fin, chapitre 24. On va regarder le dernier message de Josué à Israël. Une des manières de voir le livre de Josué, c'est de le voir comme, tantôt j'ai dit promesse, d'accord? Ou choix. Dieu, au début, Josué demande à Israël de renouveler ses promesses, ses engagements, son choix de servir l'Éternel. Tout le livre de Josué sert à faire la démonstration que Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu s'est choisi un peuple, il va être fidèle à ses engagements. Et lorsqu'on arrive à la fin du livre de Josué, ce choix-là, cet engagement-là de la part du peuple est redemandé. Il leur est appelé de se réengager à nouveau, d'accord? Et donc, il y a définitivement des leçons pour nous à apprendre parce qu'on vit cela quotidiennement. Quotidiennement, je dois aller vers l'Éternel. Puis le matin, lorsque je me lève, ce matin, je me suis réveillé comme 25 minutes trop tôt. Là, j'ai regardé mon cadran, puis j'ai dit, oh, j'aurais dormi 25 minutes de plus. Puis là, j'ai dit, OK, Seigneur, tu veux, je prie. C'est correct. Et je me suis mis à prier, je me suis mis à repasser des choses dans mon cœur, puis à renouveler mon engagement aujourd'hui à marcher avec l'Éternel. D'accord? Donc, lorsqu'on arrive à la fin du livre de Josué, Josué assemble toutes les tribus d'Israël à Sichem, je suis au début du chapitre 24. Il les convoque, il convoque les anciens, les chefs, les juges, il les rassemble et puis il va leur prêcher encore une fois. Il va s'adresser à eux encore une fois et il va les inviter à renouveler leur engagement avec l'Éternel. Donc, il fait un résumé de l'histoire, de ce qu'ils ont vécu ensemble pour souligner encore une fois comment lui a cherché à être un modèle. Et il leur dit, maintenant, vous allez devoir être un modèle chacun dans vos familles, chacun dans vos foyers, chacun dans vos tribus, chacun dans vos villes. Et on arrive au verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. C'est comme si Josué ne prend jamais pour acquis que toutes les idoles sont chassées. Et on a définitivement ça à faire nous-mêmes. Il y a une expression en anglais qui dit « creep in ». Les idoles, ce sont, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, Paul va parler de la débauche, de la convoitise, tout ça. Il dit c'est de l'idolâtrie. C'est chaque fois que quelque chose vient prendre la place de Dieu dans mon cœur et qui fait qu'au lieu de vivre du contentement avec Dieu, prendre plaisir à la loi de Dieu, je vais me tourner vers ça en désobéissant à Dieu. Et il y a une soif, il y a un désir, il y a un appétit pour aller vers ça. Josué, c'est comme s'il prend toujours pour acquis qu'il y a toujours des idoles qui sont en train de rentrer dans le pays. Il y en a toujours qui sont en train d'entrer. C'est leur fonction, c'est leur rôle, c'est ça qu'ils cherchent à faire constamment. Mais c'est la même chose dans notre cas, nous. On doit examiner notre cœur parce que ces idoles-là veulent revenir prendre du territoire constamment. C'est ça qu'elles veulent. Et je dois renouveler mon engagement de renoncer à ces idoles-là. Parce que, écoutez, je veux dire, Dieu a fait le ménage avec Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, comme j'ai dit tantôt, même violemment. Lorsque, avant qu'ils entrent dans la terre promise, Josué renouvelle les vœux. C'est très clair qu'ils doivent renoncer à toutes les idoles. À la fin de la conquête, il dit encore une fois, enlevez les idoles. Ouais, mais il n'y en a plus, Josué. Non. Je vous connais. Vous êtes des êtres humains, puis je connais ces bêtes-là. Ça veut rentrer tout le temps. Et donc, ça doit être constamment renouvelé. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. C'est vraiment fort ce qu'il fait. Il fait la même chose que lorsque Jésus va confronter la foule. Il dit, vous venez pour du pain, maintenant vous pouvez partir. Je vous ai donné du pain, en allez-vous-en. Fait que là, ils sont à l'intérieur de la terre. Ils sont dans la terre promise. Puis là, il leur dit, maintenant choisissez si vous voulez servir l'Éternel. Si vous ne voulez pas servir l'Éternel, choisissez entre ces dieux-là et ces dieux-là. Je peux vous les présenter si vous voulez. On a une panoplie d'autres options. C'est à vous de choisir. Moi, je veux servir l'Éternel. Il est presque en train de les pousser en disant, allez-y. Il y a beaucoup d'ironie dans ça, d'accord? Mais il veut les confronter et faire des choix. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ses grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Et puis Josué, revenant sur l'Alliance, il est en train de restipuler à nouveau l'alliance. Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. » En parenthèse, entre guillemets, qui ne tolère aucune idole. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Il va honorer son alliance, il va vous châtier. Le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons l'Éternel. » Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Et ils répondirent, « Nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez-vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit, c'est ce que je vous parlais, l'indice qu'on avait dans le texte. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Et donc, c'est un témoignage de l'engagement qu'ils ont pris avec lui. Est-ce qu'il y a des idoles dans vos vies qui doivent être chassées? Parce qu'elle cherche toujours à rentrer. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, c'est enseigné plus clairement. Les idoles se situent dans notre cœur et c'est notre cœur qu'on doit tourner vers l'Éternel. Est-ce qu'il y a des idoles qui doivent être chassées de vos vies? Est-ce que vous devez renouveler vos vœux avec l'Éternel? Prendre un temps avec Dieu et dire, Éternel, tu es mon Dieu. Il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose dans ma vie. Ce sont des idoles. C'est là que je vais me réfugier quand les choses vont mal pour trouver ma paix et mon repos au lieu de le trouver en toi, Seigneur. Et c'est devenu une idole dans ma vie parce que le repos se trouve en toi, auprès de toi, Éternel. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Deux, trois questions à la fin pour peut-être des pistes de mise en application ou d'autres leçons qu'on n'a pas pris le temps de développer beaucoup. Mais évidemment, Josué est définitivement un type de Christ. Parce que la conquête que Josué a faite était temporaire, elle était temporelle, c'était dans un lieu donné et limité. La conquête que Christ a faite sur nos ennemis, c'est une conquête éternelle, parfaite, entière. Il a vaincu l'ennemi de nos âmes. Et si Josué est allé là, puis ils ont chassé toutes les idoles et toutes les divinités païennes de ce territoire-là, Christ est venu le faire dans nos cœurs, nous. C'est là qu'il est venu chasser ces idoles-là, qu'il est allé chercher cette victoire-là pour nous. Deuxièmement, si vous êtes chrétien, pouvez-vous regarder en arrière dans votre vie et identifier des domaines où Christ a déjà manifesté sa victoire? Si dans votre expérience de la vie chrétienne, vous ne voyez pas la puissance de la manifestation de, de Christ, la manifestation de la puissance de Christ à travers vos années de vie chrétienne, moi, je vous encourage vraiment à vous poser des questions. Christ est vivant, il règne et il fait la conquête. Il nous donne des victoires, il chasse des idoles de nos vies. Il y a des périodes dans notre vie chrétienne qui sont plus difficiles. Des fois, ça peut durer des années. Personnellement, j'ai vécu une période d'à peu près 6 ans dans ma vie chrétienne où, honnêtement, j'étais sur le cruise et j'étais pasteur en même temps. D'accord? Tu te consacres chaque mardi matin parce que tu as ta semaine à faire pour servir le Seigneur, puis tu décroches après. D'accord? Alors, il y a des périodes, des fois, qui sont difficiles. Mais lorsque je regarde en arrière, des pierres qui sont témoins comme ça, des moments dans ma vie où clairement Christ a vaincu, il a changé des choses. Le Yannick d'autrefois n'existe plus, il est mort. Et ceux qui m'ont connu autrefois, ceux qui pouvaient voir la trajectoire de ma vie, peuvent définitivement dire, ce gars-là, il n'existe plus. C'est une vie complètement différente. Et que ce soit dans ma famille, que ce soit, par exemple, mon père qui n'est pas chrétien, il peut rendre témoignage que je ne suis pas l'homme que j'étais. Pas juste parce que j'ai maturé, parce que la vie m'a appris des choses, mais je ne suis pas devenu l'homme que je devais devenir si je n'étais pas avec Christ. Et donc, je peux regarder à ces moments-là où vraiment Christ m'a sanctifié. Et c'est important de les voir. Et si vraiment vous dites, regarde, moi, ce n'est pas ça. La vie chrétienne, c'est comme du dur labeur tout le jour. Et je vois pas cette victoire-là arriver dans ma vie. Il y a des questions à te poser. Il y a des choses à examiner au niveau de ta compréhension de l'Évangile. D'accord? Quel rôle l'alliance d'une Église joue-t-elle dans la vie d'un croyant? C'est une des choses que je regrette un peu dans l'Église. Ici, on ne revient pas assez souvent avec l'alliance. Mais si vous regardez, parce qu'on en a une, hein? On a une confession de foi, on a une alliance, on veut la rafraîchir, la mettre un petit peu plus dans des termes concrets pour notre époque au niveau des combats, de l'obéissance, comment ça peut se manifester. Mais si vous remarquez, et ça va continuer à travers les livres historiques, cette idée de relire l'alliance qu'on a faite avec l'Éternel revient constamment et c'est un moment où on renouvelle nos vœux avec Dieu. Bien, comme Église, on a une alliance qui résume en gros comment est-ce qu'on voit, qu'est-ce que ça veut dire concrètement marcher avec Christ en Église, ensemble. Et donc, c'est un parallèle, ça vient de là, ça vient de cette idée-là pour voir comment est-ce que ça va se traduire en action. Quelle est la différence entre un péché par omission? J'en ai parlé tout à l'heure. Alors, vous avez au bas de la page, je vais essayer de m'assurer qu'on ait toujours ça. On essaie de vous donner deux options. Si vous regardez, vous avez deux listes de lectures. Si vous avez le courage de vous lancer dans toutes les lectures pour la semaine suivante, bien, vous avez découpé le texte, d'accord? C'est pas si pire cette semaine, 4 chapitres peut-être par jour. Ça peut prendre peut-être une petite demi-heure, un petit 40 minutes environ. Maintenant, on vous donne les passages essentiels à les lire aussi si vous voulez simplement être dans le texte. Si ces livres-là sont loin de vous, loin de votre mémoire, là, ce que je fais là comme résumé, vous allez avoir l'impression que je fais juste vous rafraîchir c'est quoi le livre, puis vous n'allez pas placer des nouvelles notions dans votre pensée. D'accord? Alors, je vous encourage au minimum d'aller tourner les pages de chacun des livres, replacer les séquences, les événements, lire les sous-titres, lire les passages importants, ce serait très profitable. Puis si vous voulez, tout simplement, si vous n'avez pas de programme de lecture, ça va être un bon programme, tout simplement aller lire le texte complet. On va terminer avec un mot de prière. Éternel notre Dieu, je veux te bénir pour des hommes comme Josué. Mais je veux te bénir surtout, Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu règnes, parce que tu es bon, parce que tu prends soin de nous, Seigneur. Tu as pris soin d'Israël, tu as été fidèle à tes promesses, Seigneur. Tu es un Dieu qui gagne les victoires, Seigneur. Et la victoire que tu as acquise à la croix, Seigneur Jésus, est indiscutable, incontournable, elle est puissante et majestueuse. Et Seigneur, par ta grâce, par l'œuvre de ton esprit dans mon cœur, je suis entré dans ce repos. Ce repos d'une vie chrétienne, marcher avec toi, me reposant auprès de toi quotidiennement, déposant à tes pieds mes fardeaux, les abandonnant, Seigneur, à tes pieds pour vivre ma journée par la puissance de ton esprit, rempli du Saint-Esprit, quelles que soient les circonstances de ma vie, Seigneur. Éternel, tu es un Dieu fidèle à ses promesses. Tu honores tes promesses, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'être un Dieu trouvé fidèle à son alliance avec toi, Seigneur. Et pour ceux d'entre nous qui ont besoin de renouveler leur engagement avec toi, renouveler, Seigneur, cette alliance dans laquelle ils se sont engagés en plaçant leur foi en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, convainc-les, Seigneur, de chasser de leur vie toute idole encore présente, Seigneur, pour se consacrer entièrement et entrer dans ce repos qu'on trouve en toi. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. La semaine prochaine, Juge et Ruth.